Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques, bonjour Jacques Munier.
Au sommaire aujourd'hui, les tensions au Moyen-Orient vont-elles changer le cours, non pas des choses ou du monde, mais du pétrole.
Oui, que ce soit les tensions entre l'Iran et les États-Unis, très concrètes, notamment dans le détroit d'Ormuz où transite 20% de la production mondiale, mais aussi les tensions qui sous-tendent les relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite ou encore Israël. Ces affrontements ont des conséquences sur les cours du pétrole et les pays producteurs auront l'œil rivé sur les marchés pendant le Congrès mondial de l'énergie qui commence aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis, mais aussi à la réunion de l'OPEP jeudi. Bonjour Francis Perrin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin en studio. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et vous êtes chercheur associé au Policy Center for the New South à Rabat. La production au sein de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, elle a augmenté cet été de façon exponentielle, 80 000 barils par jour. Or, tout ça est très réglementé. Normalement, plus le pétrole est extrait en grande quantité et moins il est cher à l'achat. Qui en produit aujourd'hui plus qu'il ne devrait et sera donc réprimandé jeudi par les pays de l'OPEP ?
Il n'y aura pas forcément de réprimande, hein, parce que l'OPEP est un monde dans lequel les choses sont très feutrées, donc on se parle entre quatre murs, mais on ne se fait pas forcément énormément de reproches. Alors, selon certaines estimations, parce que on est sur des estimations, la production de l'OPEP pourrait augmenter effectivement au cours du mois d'août, et le principal pays concerné serait l'Irak. L'Irak, qui est le deuxième producteur de pétrole au sein de l'OPEP, derrière l'inévitable Arabie Saoudite, numéro un au sein de l'OPEP, et troisième producteur mondial de pétrole, après les États-Unis et la Russie.
Et alors pourquoi? C'est conjoncturel ou c'est stratégique?
Sur un mois, il est difficile de discerner une tendance. La production de l'OPEP, elle n'est pas stable, elle augmente, elle peut baisser certains mois. Donc il faut plus voir si sur plusieurs mois, on a une véritable tendance. Cela dit, l'Irak est un pays qui a une histoire particulièrement complexe depuis plusieurs dizaines d'années, avec des guerres, avec des invasions, avec des sanctions internationales très dures. Donc les dirigeants iraniens disent depuis des années, les dirigeants irakiens disent depuis des années, nous voulons reconstruire notre économie, nous voulons nous développer. Pour cela, nous avons besoin des recettes pétrolières, qui est l'essentiel des recettes de l'Irak. Et donc, nous voulons produire plus, exporter plus. Donc la montée en puissance de l'Irak est un phénomène important sur le marché pétrolier mondial depuis des années et ce n'est pas fini.
Montée en puissance qui pour l'instant, et encore une fois tout ça est conjoncturel, mais est compensée par une baisse de la production de l'Iran. L'Iran qui est sous le coup de sanctions américaines, retour des sanctions américaines. Est-ce que l'Iran accuse une baisse de ce qu'il produit ou de ce qu'il déclare?
Alors l'Iran effectivement voit sa production baisser et ses exportations pétrolières s'effondrer. Et l'Iran est un des pays membres de l'OPEP. Il y a un autre pays de l'OPEP dont la production et les exportations baissent beaucoup, c'est le Venezuela, qui continue à s'enfoncer dans la crise. Donc on a deux pays membres de l'OPEP, et non des moindres, qui, de façon involontaire, ce n'est pas eux qui ont décidé de produire moins et d'exporter moins, mais c'est le cas, et ça tire évidemment la production de l'OPEP vers le bas. Et puis il y a l'Arabie Saoudite, leader de fait au sein de l'OPEP, qui elle, délibérément, produit moins que ce que l'OPEP l'autorise à produire pour conserver un équilibre du marché pétrolier mondial.
Conserver des prix relativement hauts, c'était le cas aussi l'année dernière d'un partenaire de l'OPEP qui n'en fait pas partie, c'est la Russie, qui elle s'était engagée à réduire sa production pour venir en aide à l'Iran, dont elle est une grande alliée. Alors Jacques Munier parlait de la Russie et la place centrale de la Russie aujourd'hui dans le monde. On dit aussi qu'elle est devenue un partenaire indispensable de l'OPEP jusqu'à en tirer les ficelles.
La Russie est le deuxième producteur mondial de pétrole derrière les États-Unis, devant l'Arabie Saoudite. Donc c'est un géant pétrolier mondial, c'est aussi un géant gazier mondial, le premier pays pour les réserves prouvées de gaz. Et depuis maintenant la fin 2016, et c'est une tendance intéressante dans la période actuelle, récente et actuelle, 10 pays non-OPEP, dont la Russie, coopèrent avec l'OPEP en vue d'essayer d'influer sur le marché pétrolier mondial et sur les prix du pétrole. Et donc la Russie et d'autres pays non-OPEP travaille avec l'OPEP, dont l'Arabie Saoudite bien sûr, pour maîtriser leur production et veiller à ce que les prix restent à des niveaux intéressants pour les pays producteurs, dont la Russie, qui est fortement dépendante des recettes liées à l'exportation de pétrole et de gaz naturel.
Alors ce ratio entre surproduction de la part de certains pays et baisse de production de la part d'autres, c'est pas le seul facteur pour expliquer les variations des prix aujourd'hui. Il y a aussi, disons, l'ambiance générale, Francis Perrin. Ce qui s'est passé cet été dans le détroit d'Ormuz, des tankers pétroliers à raisonner ou saboter sans que personne ne revendique les attaques. De quelle manière et par quel mécanisme ça influence directement aujourd'hui les cours du pétrole ?
Vous l'avez rappelé en introduction de cette émission, le détroit d'Ormuz, c'est l'artère principale du commerce pétrolier mondial. Il y a à peu près 20 millions de barils qui transitent chaque jour par le détroit d'Ormuz. La production pétrolière mondiale est de 100 millions de barils par jour.
Donc ça fait vraiment 20%, quoi.
Donc ce qui se passe dans cette région a forcément un impact sur les marchés et les prix mondiaux du pétrole. Donc lorsqu'il y a tension dans une région comme celle-ci, et globalement la région du Moyen-Orient, qui représente à peu près la moitié des réserves pétrolières mondiales. Donc nous sommes dans une région, Moyen-Orient, Détroit d'Ormuz, Moyen-Orient, Golfe, Détroit d'Ormuz, une région absolument capitale, et tous les milieux pétroliers regardent de près ce qui se passe dans cette région, et quand on sent que la température monte, avec les incidents ou arraisonnements de pétroliers depuis le mois de mai de cette année, évidemment, cela exerce des pressions haussières sur les prix du pétrole. Mais la curiosité de la situation actuelle, c'est que finalement, les prix du pétrole n'ont pas beaucoup augmenté, alors que normalement, ils auraient dû augmenter, voire flamber, du fait de ces tensions dans et autour le détroit d'Ormuz, parce qu'il y a eu des facteurs baissiers qui sont venus compenser les facteurs haussiers liés à la géopolitique dans cette région du monde.
Donc les facteurs baissiers, c'est la surproduction.
Alors c'est essentiellement l'augmentation continue de la production pétrolière américaine grâce au pétrole dit non conventionnel, on parle souvent de pétrole de schiste, c'est le ralentissement de la croissance économique mondiale et ce sont les tensions commerciales très fortes sino-américaine, qui exerce là aussi une pression baissière sur les prix du pétrole.
Alors pourquoi ça exerce une pression baissière? Donc on rappelle cette guerre sino-commerciale qui a vu chacun, chaque camp, imposer des taxes toujours plus hautes au cours de l'été, 10%, 25%, et alors, chacun se renvoyant la balle.
Le lien est très clair pour les marchés pétroliers. Guerre commerciale entre les deux puissances économiques les plus importantes de notre planète et de notre temps, ça veut dire que le commerce mondial va souffrir. Il y a une relation entre le commerce mondial et la croissance économique mondiale, donc la croissance économique mondiale va se ralentir et ça aura un impact négatif sur la consommation mondiale d'énergie et de pétrole. Et donc les marchés pétroliers, par anticipation, jouent les prix du pétrole à la baisse.
On n'a pas rappelé que le détroit d'Ormuz était ce petit espace maritime de 40 km de large avec l'Iran d'un côté au nord et Oman et les États-Unis et les Émirats arabes unis de l'autre côté. Les États-Unis aujourd'hui accusent accuse l'Iran d'être à la manœuvre de ces tensions dans le détroit d'Ormuz, d'être à l'origine de ces arraisonnages. Quel intérêt aujourd'hui aurait l'Iran à déstabiliser cette région-là?
Alors, la responsabilité de l'Iran est claire parce que dans certains cas, ils l'ont revendiqué. Pas toujours, oui, oui. Mais dans certains cas.
Certains non, mais les États-Unis sont persuadés que c'était...
Oui, tout à fait. Alors, quelle est la stratégie iranienne? Il faut se rappeler évidemment les sanctions américaines, le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien annoncé par le président Trump en mai 2018 et l'étau croissant des sanctions américaines depuis plus d'un an. L'Iran fait donc monter la tension dans la région du Golfe pour dire « si vous ne voulez pas tenir compte de moi », si vous voulez ne pas reconnaître mon importance en tant que puissance régionale, je vais vous montrer que je peux causer quelques problèmes, y compris au commerce pétrolier mondial, ce qui aura un impact sur l'économie mondiale.
Ou tout simplement, l'Iran se venge de la saisie d'un de ses pétroliers dans les eaux de Gibraltar en juin.
Mais ça avait commencé avant.
Alors Francis Perrin, pour conclure cet entretien, je ne peux pas ne pas vous poser la question. C'est aujourd'hui le premier jour de ce congrès mondial de l'énergie qui a lieu tous les 3 ans, je crois.
Tous les 3 ans.
Est-ce que les pays producteurs de pétrole ont aujourd'hui amorcé une réflexion sur une transition énergétique. Est-ce que les énergies renouvelables sont abordées dans ce genre de réunion au sommet par les pays producteurs qu'on vient de citer ?
Alors, le Congrès mondial de l'énergie, ça porte sur toutes les énergies. Pétrole et gaz, bien sûr, mais énergie renouvelable nucléaire. Et les pays producteurs de pétrole, y compris les pays de l'OPEP, réfléchissent en termes de transition énergétique, mais certains plus que d'autres. Et parmi les pays de l'OPEP et parmi les pays de cette région, le pays hôte du Congrès mondial de l'énergie, les Émirats arabes unis, est dans la région le plus avancé en termes de diversification énergétique vers l'énergie solaire et vers l'énergie nucléaire, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont abandonner le pétrole ou le gaz naturel. C'est une diversification. Ça ne veut pas dire qu'on remplace le pétrole et le gaz, mais on
c'est
ajoute...
Pas, c'est pas la question pour eux pour l'instant.
C'est pas la question pour eux et ce ne le sera pas avant longtemps. Donc il ne s'agit pas de remplacer, mais de diversifier un portefeuille énergétique pour y faire entrer nucléaire et renouvelable, essentiellement énergie solaire.
Pour l'instant, c'est vrai que le Moyen-Orient a un potentiel de production de pétrole de 80 ans de production, je crois, à peu près. Merci beaucoup, Francis Perrin,
Merci
d'avoir
beaucoup.
Été avec nous ce matin.